Zone Marine, portrait de gens de mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons. Vous allez entrevoir tout un univers, du littoral à la haute mer en passant par le monde sous-marin. Écoutez, vous entendez déjà le bruit de la mer et l'odeur d'iode commence à vous chatouiller les narines. Alors, embarquez avec nous.
Voilà, il y a tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout à fait, voilà, tout devant derrière. Ok.
À la plage arrière de...
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?
Je suis marin, j'ai 59 ans et je travaille sur des navires océanographiques qui appartiennent à l'IFREMER, qui est donc l'Institut français pour la recherche sur la mer. Et ces navires sont gérés par une filiale de l'IFREMER qui s'appelle Génavire et c'est eux qui gèrent les navires. Donc là, je suis employé par un armateur qui gère les navires de la flotte océanographique. Et je suis actuellement maître d'équipage sur un navire côtier, donc je réalise des missions scientifiques. On est en soutien des équipes scientifiques pour faire différentes missions océanographiques ou halieutiques. C'est un métier très très intéressant, très enrichissant. Alors, actuellement, je suis embarqué sur un navire océanographique qui opère essentiellement en Méditerranée. C'est un catamaran de 30 mètres qui s'appelle l'Europe. Des missions très intéressantes sur la Méditerranée occidentale, mais pas que, puisque on a eu une mission sur la Grèce. Alors, sur ce navire-là, ainsi que sur tous les navires de la flotte, il y a des activités halieutiques. Donc évaluation de stocks et surveillance des stocks de poissons. Ce sont des missions phares et récurrentes de ce navire. Après, il y a des missions de contrôle de la qualité de l'eau, des missions d'océanographie pure. Il nous arrive parfois de faire des missions d'ordre sismique ou alors d'entretien de mouillages immergés qui sont soit au large de Nice, soit mouillés au large des côtes françaises méditerranéennes. C'est des mouillages qui sont en place depuis de nombreuses années et qui nécessitent un entretien annuel, constant et un contrôle de leur bon fonctionnement. Et ces bateaux sont très bien adaptés pour ce type de mission. Il y a d'autres missions qui sont très intéressantes aussi. On manœuvre depuis l'Europe des sous-marins autonomes, donc qu'on appelle des HROV, ou alors des AUV, ce sont des engins télécommandés. La différence fondamentale entre un HROV et un AUV, c'est qu'un HROV, on a des images en temps réel et un contrôle de ses mouvements en temps réel, alors qu'un AUV, c'est une programmation. On le met à l'eau et ensuite il fait le parcours qu'on lui a demandé de faire. Il y a des moments très intenses lors des mises à l'eau et des mises à bord. C'est du matériel qui coûte très très cher, qui est très fragile, donc il faut faire très attention. Après, pendant que les engins sont dans l'eau, c'est essentiellement de la surveillance.
Et ton travail de maître d'équipage, concrètement, qu'est-ce que tu fais à bord ?
Alors, le rôle du maître d'équipage, le Bosco, c'est l'interface entre le commandant du navire, les officiers du navire et l'équipage. Et enfin, quand je dis l'équipage, c'est-à-dire que les marins qui sont sur le pont. Mais pas que, puisque on est très souvent à aider et à donner des conseils aux scientifiques sur l'installation d'un certain nombre d'appareillages sur le navire afin qu'ils soient utilisés de la meilleure des façons possibles et surtout dans des situations de sécurité les plus absolues. C'est-à-dire que le but, c'est que personne ne se fasse mal et ensuite qu'on ne casse pas de matériel et qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc, un des rôles principaux du maître d'équipage, c'est de faire cette interface. Ensuite, il y a toute la sécurité du navire, où il y a des contrôles réguliers à faire, des contrôles hebdomadaires, mensuels. Et puis après, il y a toutes les opérations d'entretien et de maintien du bateau en conditions opérationnelles. Le maître d'équipage, c'est vraiment une cheville ouvrière de la mission scientifique à bord des navires océanographiques. C'est pour ça que c'est un métier d'expérience où l'initiative, la réflexion est très importante et il faut être très à l'écoute de ce qu'attendent les scientifiques qui sont embarqués sur le navire, mais en tenant compte des particularités du navire, des conditions de sécurité et des conditions d'utilisation du navire.
Et pour en arriver à ce métier-là, qui est très très particulier, quel est ton parcours ?
Alors, j'ai commencé mon métier de marin en devenant pêcheur, marin-pêcheur. Je ne suis pas du tout issu d'un milieu marin, pas du tout, puisque mon père était chirurgien plasticien, il soignait des enfants brûlés, et ma mère était enseignante. Et en fait, c'est le fait que mes parents avaient une petite maison en bord de mer, dans un petit port de pêche sur la côte algérienne, à 40 km à l'ouest d'Alger, où j'ai passé toutes mes vacances d'enfant et de jeune homme. Et j'étais donc de fait en relation très intime avec la mer et avec des gens de mer dans ce port qui m'ont inculqué l'amour de la mer. On dit souvent que quand on a été piqué à l'eau salée, on n'arrive plus à s'en défaire. On est contaminé à vie. Et de façon très précoce, puisque j'ai commencé à aller dans cet endroit, je devais avoir 5-6 ans, cet endroit m'a apporté énormément de choses, puisque je suis devenu marin-pêcheur grâce à cet endroit. J'y ai rencontré ma femme, avec qui je vis actuellement, et avec qui nous avons eu 3 enfants, et 2 de mes enfants sont nés dans cet endroit. Après, j'ai fréquenté un certain nombre de pêcheurs qui m'ont transmis leur savoir-faire, ils ont vu que j'étais intéressé. À force d'expérience, à force de contact avec des situations très particulières en lien avec la mer, on devient marin. On ne naît pas marin, on devient marin. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Puisqu'à l'âge de 18 ans, l'un de mes meilleurs amis était fils de patron pêcheur, et il m'a annoncé que lui faisait une école de pêche à Alger pour devenir officier de pêche. Je me suis renseigné sur la possibilité de m'inscrire dans cette école, qui était sur Alger. Alors bien sûr, ça n'a pas du tout plu à mon père. Mon père qui était médecin, qui enseignait la médecine à l'université d'Alger, quand je lui ai annoncé que je voulais être marin-pêcheur, il m'a dit immédiatement « Mais j'ai des abrutis qui sont étudiants en médecine et qui vont devenir médecins, et toi, mon fils, tu vas être marin-pêcheur. » Je lui ai répondu « Mais justement, parce que je ne suis pas un abruti. » Donc j'ai fait une école de pêche à Alger pour devenir, à l'époque, c'était une formation en 2 ans. On devenait lieutenant de pêche. Je suis allé naviguer sur des unités de pêche algériennes, chalutier, bolincheur, lamparon en Algérie, petit métier. Et après un an et demi d'exercice, je suis retourné à cette école pour passer un diplôme supérieur de patron de pêche, qui est l'équivalent d'un brevet de chef de quart, capitaine 500, UMS. Dans le cursus français, qui est un cursus international. C'est le même cursus dans tous les pays qui ont ratifié une convention internationale sur les brevets maritimes. Et de là, j'ai commencé à travailler donc, sur des navires de pêche côtière à l'époque en Algérie, parce qu'il n'y avait que de la pêche côtière. Mais j'ai assez rapidement eu l'ambition d'être mon propre patron. Donc, il fallait trouver un bateau. Alors, forcément, j'avais pas beaucoup de moyens. Et d'abord, ça a été. J'ai d'abord commandé des petits bateaux pour des armateurs, notamment pour faire de la pêche à l'espadon, de la pêche à la langouste, et ce qu'on appelle du petit métier. J'ai fait essentiellement ma carrière de marin-pêcheur en Méditerranée. Après, je me suis mis à mon propre compte, avec une toute petite embarcation, qui faisait 5,80 m. Et on faisait de la petite pêche côtière. Mais ça a été pour moi les plus belles années professionnelles de ma vie, où j'ai eu le plus de satisfaction. Parce que je faisais un métier absolument extraordinaire, en lien très étroit avec l'environnement dans lequel je travaillais, et en respect total de cet environnement, parce qu'on n'était pas, on faisait pas de pêche intensive. On travaillait en fonction des saisons, on travaillait en fonction des conditions météo aussi, parce qu'avec un petit bateau, on est obligé de se plier, voilà. Et jamais essayer de vendre une écaille avant de l'avoir pêchée. C'est-à-dire qu'on ne tirait pas des plans sur la comète. On allait en mer, ce qu'on arrivait à attraper, à pêcher, avec un certain nombre de techniques de pêche, ça nous permettait de gagner notre vie, de faire vivre notre famille, de payer les charges un petit peu et éventuellement de réinvestir un petit peu dans du matériel. Et ça, c'était absolument extraordinaire. J'étais en 1993-94 sur un projet avec le collègue avec qui je travaillais. On devait monter une coopérative de pêche parce qu'on voulait avoir un bateau un peu plus grand, faire des choses un peu plus intéressantes sur des espèces plus nobles comme la langouste ou l'espadon. Par contre, à cette période en Algérie, il y avait une guerre civile qui ne disait pas son nom, beaucoup de terrorisme, beaucoup d'incertitudes sur le devenir, puisque dès qu'on se déplaçait, on ne savait jamais sur qui on allait tomber. Ça pouvait être la fin de tout. Et puis, j'avais déjà à l'époque deux enfants qui étaient en âge d'aller à l'école. Et j'avais mon épouse qui avait monté un club de natation dans une commune tenue par des islamistes, ce qui était assez compliqué à gérer. Il y a eu un événement tragique qui a fait basculer un petit peu les choses. On a eu un accident domestique avec l'un de mes deux enfants, donc mon fils, qui a été très gravement brûlé. Et on a pris la décision, ma femme et moi, de quitter l'Algérie pour venir s'installer sur la côte méditerranéenne française, parce qu'on est très attaché à la Méditerranée. Donc je suis arrivé en 1994 avec donc ma femme et mes deux enfants dans la ville de Sète. Bien sûr, je suis arrivé sur la ville de Sète, je ne connaissais personne. Hein, Le seul contact que j'avais dans le milieu de la pêche, c'était un pied noir qui était installé au Gros du Roi et qui était spécialisé dans le montage, la fabrication et la réparation des engins de pêche, notamment des chaluts. C'est quelqu'un que j'avais pu rencontrer en Algérie, qui s'appelle Daniel Medino, qui est quelqu'un très connu sur la Méditerranée parce qu'il a un peu révolutionné la façon de travailler. Et il nous a donné beaucoup de conseils et il nous a beaucoup accompagnés. Donc quand je suis arrivé en 1994, naturellement, je suis allé voir cette personne en lui demandant s'il ne connaissait pas des gens qui pourraient éventuellement m'employer, parce que lui connaissait. Et il a fait même mieux que ça, puisque c'est lui qui m'a employé. Pendant presque un an et demi, j'ai travaillé pour cette personne. Et il m'a permis de m'introduire dans le milieu de la pêche chalutière méditerranéenne, notamment entre le Gros du Roi et le port de Sète. J'ai pu rebondir et me faire employer par un patron pêcheur à Gatois qui avait son chalutier à 7. Et à l'époque, c'était le plus petit bateau, le plus petit chalutier de 7. Et donc j'ai travaillé avec cette personne, avec ce bateau, pendant presque un an et demi, voire deux ans. Et ensuite, j'ai pu embarquer sur avec d'autres armateurs. Ça me permettait de faire vivre ma famille. Je gagnais correctement ma vie. Il y a des hauts, des bas, parce que la pêche, il faut savoir qu'en pêche artisanale, on est payé au prorata de la production, on n'a pas de salaire fixe. Officiellement, il y a un salaire fixe, mais dans la réalité, en fait, on est payé à la production, à la part. De fil en aiguille, je me suis orienté vers quelque chose qui me plaisait plus, qui était de entretenir, réparer, concevoir les engins de pêche. C'est un vrai métier, on appelle ça filetier ramandeur ou armeur, il y a plusieurs. Et c'est malheureusement un métier qui est en train de se perdre, parce que comme il y a de moins en moins de chalutiers, eh bien, il y a de moins en moins de gens qui savent ramander les chaluts, les filets.
J'imagine que toute cette expérience de la pêche, quand tu es passé sur les navires scientifiques, et notamment quand vous faites de la biotique, ça t'a énormément servi.
Alors, c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai été recruté. Mon premier embarquement avec Génavire en 2014, j'avais eu l'occasion, dans mon métier de ramandeur filetier, de me rapprocher du service des technologies des pêches de l'Ifremer, de la station de Sète. Et on a eu des échanges gagnant-gagnant, puisque moi j'avais besoin d'informations sur la conception de plans, la façon de produire un plan de chalut. Et eux, en contrepartie, ils avaient besoin d'expérimentation sur le terrain. Donc on avait des échanges comme ça, qui étaient absolument formidables, puisqu'on apprenait l'un de l'autre beaucoup de choses. Et c'est cette personne-là qui, à l'époque, m'avait dit « Mais tu sais, la flotte océanographique de l'Ifremer, il y a une personne comme toi, ça serait vraiment intéressant, tu devrais postuler, tout ça. » Et à un moment donné, dans ma carrière de marin, j'ai commencé à avoir une activité syndicale parce que je sentais qu'il fallait faire évoluer, notamment à la suite des crises de carburant, pour défendre la profession, défendre le métier et faire en sorte qu'il puisse perdurer. Il y avait des gros défis à relever sur les consommations de carburant, sur le type de pêche exercée, sur la quantité de poissons qu'on pouvait produire sans que le stock ne s'effondre. Et il fallait vraiment s'impliquer à ça. J'ai réussi à être élu au niveau du comité régional des pêches maritimes du Languedoc-Roussillon à l'époque. Avec d'autres collègues, on a monté une association de défense des métiers de marins-pêcheurs. Et ça nous a permis d'engager un certain nombre de discussions avec des institutions représentatives, des responsables politiques au niveau local, pour essayer de faire évoluer un certain nombre de choses. Notamment sur les droits sociaux des marins, qui à l'époque souffraient un petit peu de... Il y avait des choses qui n'allaient pas. On n'avait pas de contrat de travail, pas de bulletin de salaire, il n'y avait pas de congé payé. Alors que dans les textes, normalement, tout ça, c'était acquis, quoi. On n'avait pas à se battre pour ça, c'était acquis. Donc j'ai commencé un petit peu à me battre. Je ne voulais pas faire la révolution. Je voulais que les chefs d'entreprise se conforment à leurs obligations. Bien sûr, ça n'a pas plu. Et je me suis retrouvé, pour une raison fallacieuse, bien sûr, je me suis retrouvé... licencié, sans boulot. Je parle de tout ça parce que c'est important de savoir que quand on rentre dans ce milieu de la pêche, il y a beaucoup de choses traditionnelles et ancestrales qui existent depuis longtemps, qui sont très très bien, mais il y en a d'autres qui ne sont pas bien et qu'il faut avoir le courage de faire évoluer. Et en effet, les gens qui viennent dans ce métier, qui ne sont pas forcément issus de ce milieu, ont parfois un regard neuf sur tout un tas de questions concernant ce métier. Que ce soit les questions sociales, les questions de salaire, les questions d'exercice de métier, mais aussi sur des méthodes de pêche qu'on peut améliorer, ou alors de quelle manière on peut être plus attentif à l'environnement pour avoir un rendement durable. Donc j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai passé un brevet de mécanicien en me disant que je pourrais peut-être me diversifier, faire autre chose. C'est ça qui est intéressant dans le milieu maritime, c'est que quand on est marin, en effet, on peut se spécialiser dans quelque chose, mais avec l'expérience, avec l'évolution dans son métier, on acquiert plein de compétences transversales. Alors parfois, il faut les officialiser par une formation, mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Pour revenir à ce qu'on disait au début sur le métier de bosco, en effet, un bosco... C'est pas quelqu'un qui a un diplôme, il n'y a pas d'école pour devenir bosco. On devient maître d'équipage parce qu'on a acquis des expériences, on a acquis des connaissances, on a un savoir-faire, on a un savoir-être, on a le sens des responsabilités, parce qu'on a la responsabilité d'un certain nombre de personnes sur le bateau, dont il faut gérer l'emploi du temps, dont il faut gérer le travail, l'organisation. Donc ça, il n'y a pas véritablement d'école dans le milieu maritime pour apprendre à devenir maître d'équipage. C'est en même temps un inconvénient et en même temps un avantage. Mais dans mon expérience, à un moment donné, quand j'ai arrêté d'être marin sur les bateaux de pêche, j'ai fait d'autres métiers dans le secteur maritime, puisque j'ai été matelot mécanicien pendant une saison sur les pilotines du port de Sète. Donc j'ai travaillé avec les pilotes du port de Sète. Très très belle expérience, vraiment ça a été très enrichissant. Et après, j'ai fait autre chose dans le milieu maritime, mais à terre, j'ai été ouvrier voilier. J'ai travaillé dans une voilerie pendant presque 2 ans. En plus, on s'occupait de un certain nombre de bateaux de plaisance, puisqu'il avait un port à sec. Vraiment, ça a été très enrichissant. Par contre, c'est un métier qui est très fatigant. On est toute la journée à quatre pattes sur le parquet. On a des voiles parfois qui pèsent plusieurs kilos, dizaines de kilos à pousser à bout de bras sous une machine à coudre. Et il y a un facteur temps, parce qu'il faut faire de la production. Je veux dire, une voile, il faut la faire en 20 heures, il ne faut pas la faire en 30 heures. Et ce n'est pas très bien payé. Et à un moment donné, le corps s'use. Et donc, j'ai été obligé de m'arrêter de faire ce métier. Et j'ai eu l'opportunité de retourner travailler en Algérie, puisque j'étais contacté par un armateur algérien, un armateur de chalutiers qui avait 5 bateaux, qui m'a demandé de revenir en Algérie pour être son capitaine d'armement et donc m'occuper de tout le matériel de pêche et d'une partie de la gestion de ses navires de pêche. Ça a été une belle expérience puisque ça m'a permis de retourner dans mon pays d'origine pour y travailler et de me rendre compte à quel point ce milieu avait... Alors c'est pas évolué, parce qu'évoluer c'est bien. Quand je suis parti d'Algérie en 94, il y avait 150-180 chalutiers sur l'ensemble des 1500 km de côte. 2013, il y en avait 450. Donc, en effet, il y a eu une évolution dans le nombre de bateaux, dans les façons de travailler aussi, il y a eu une évolution, puisqu'on avait des bateaux qui faisaient des marées, alors qu'à l'époque, les bateaux ne faisaient pas de marées. Mais en soi, pour moi, ça n'a pas été une évolution, parce que la zone côtière algérienne n'est pas faite pour faire ce type de pêche. C'est bien de faire une pêche côtière parce qu'on respecte la saisonnalité. En fait, il faut comprendre que l'activité de pêche, d'une manière générale, quel que soit le métier, petit métier ou grand métier, entre guillemets, ce qu'on appelle petit métier, c'est tout ce qui est principe passif. C'est-à-dire que c'est un engin de pêche qui est posé et le poisson se piège et est piégé par l'engin de pêche. Il est pris dans une maille, il va mordre un hameçon. Et les autres types de pêche, les autres principes sont des principes actifs. Donc les principes actifs, c'est-à-dire c'est l'engin de pêche qui se déplace et dans son action va attraper les poissons. Et en Algérie et ailleurs sur les autres côtes, notamment méditerranéennes, si on développe trop le principe actif, on dépasse très rapidement ce qu'on appelle le rendement durable. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de poissons qui est de différentes espèces et en fonction des espèces, il y a une quantité dont il ne faut pas prélever plus que ce que le stock peut produire. C'est-à-dire, je donne un chiffre simple, s'il y a 100 poissons, il ne faut pas empêcher plus de 30, parce que si on empêche plus de 30, on met en danger le stock. Et ça, c'est très important quand on devient marin-pêcheur, quand on veut exercer ce métier, d'en avoir conscience. Parce que la pêche, c'est la dernière activité de prédation que pratique l'être humain. Avant, on chassait, on allait cueillir partout, tout ça. Maintenant, on fait de l'agriculture. On chasse plus, on fait de l'élevage. Mais pour ce qui est du poisson, on fait un peu de pisciculture, oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire que de la pisciculture, parce que pour faire grandir 1 kg de poisson d'élevage, il faut 4 kg de poisson sauvage. Très vite, on est bloqué. Donc, continuer à prélever dans un stock qui se reconstitue naturellement, il faut faire très attention à comment on prélève, que ce soit par les engins, par la façon de travailler, par la fréquence. Et le marché ne peut pas commander ça. Si c'est le marché qui commande ça, on se retrouve dans les situations actuelles où on a des stocks qui s'effondrent complètement. Et de penser que dans la mer, il y a une ressource inépuisable, la corne d'abondance du poisson, elle n'existe pas. Donc, le conseil que je donne aux gens qui veulent devenir marins-pêcheurs ou qui veulent travailler dans le secteur de la pêche, il faut avoir conscience de ça. Si vous n'avez pas conscience de ça, votre métier, vous le faites de travers, forcément. Et ça, c'est très important de le savoir.
Le thon rouge méditerranéen, finalement, la surpêche, ça s'est calmé?
Alors, il y a vraiment un travail extraordinaire qui a été fait sur les 20 dernières années. Et c'est un travail qui a été fait par l'ensemble des acteurs. Ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu faire changer les mentalités des pêcheurs. Et aujourd'hui, avec la mise en place des quotas sur cette espèce-là, on a véritablement un stock qui revient. On a des campagnes de pêche qui sont certes très courtes, mais qui sont très productives, parce qu'elles sont planifiées, tant sur la durée que sur les quantités de poissons à pêcher. Le thon rouge est une espèce à haute valeur ajoutée. Le prix qui est décidé en début de campagne les fait en connaissance de cause par rapport au marché, par rapport aux capacités de production et aussi par rapport à l'équilibre économique des entreprises de pêche, tant pour les propriétaires des navires que pour les salariés qui travaillent sur ces navires-là. Moi, je considère que c'est une vraie réussite. Les ONG ont beaucoup travaillé pour que ça puisse se faire. Les relations n'ont pas été simples avec les pêcheurs. On se rappelle encore de l'épisode du Rainbow Warrior devant Marseille qui s'est fait harceler par les thoniers. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des gens qui travaillent dans ce métier-là peuvent dire merci en partie aux ONG d'avoir tenu bon pour mettre en place ce système de quotas, et vraiment c'est une réussite.
On l'a revu tout devant derrière. On l'a revu tout devant derrière. Tout à fait, on l'a revu tout devant derrière. Ok. Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?
Ondes marines, portrait de gens de mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons.